des polars et des notes.
Et voilà, ça devait arriver, nous sommes en 2023. Bonjour à toutes et à tous, et donc bonne et heureuse année, la santé surtout, et de passionnantes lectures. Bienvenue sur Radio Évasion pour ce nouveau numéro de Des Polars et des Notes, qui va nous entraîner à travers les époques et les continents. Inutile de prendre des notes, vous trouverez toutes les références des romans évoqués sur le blog Le 429, tout attaché et en minuscules. Alors les années défilent, Pierre-Yves assure toujours la partie technique. Allez, courage camarade, la retraite approche, plus qu'une quarantaine d'années de cotisation et c'est bon. Trêve de billevesée, voyage, filons en Israël pour deux enquêtes plus que délicates. Alors ça, c'est un simple enquêteur de Dror Michani qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire et qui a été traduit de l'hébreu par Laurence Sendrovitch. Déjà l'année dernière, Dror Michani avait été pris mystère de la critique étrangère avec Une, deux, trois, son formidable précédent polar. Et il revient avec un simple enquêteur, donc, qui est sorti du même tonneau. Et c'est du très, très bon. Récemment promu commissaire à Holon et jeune marié, Abraham, alias Avi, on en a marre des petites affaires, des crimes domestiques, des petits trucs banals qui lui arrivent tous les jours. Il a l'impression de vider la mer à la petite cuillère et de ne servir à en rien sa communauté. Alors le hasard fait bien les choses, comme d'habitude, puisqu'une affaire de disparition d'un touriste, un touriste étrange aux multiples identités et passeports, va lui fournir la belle et grosse affaire dont il avait besoin pour se remonter le moral. Il profite de son grade pour abandonner à son adjointe le soin de rechercher la mère d'un bébé abandonné aux portes d'un hôpital. Alors, le cas du nourrisson va se montrer évidemment bien plus complexe qu'il n'est apparu au premier abord et Avi ne pourra éviter de s'en mêler. Quant au touriste, vite découvert noyé sur une plage, l'ombre du Mossad et d'autres services secrets plane au-dessus de son cadavre. Autant dire que les informations et indices ne vont pas se bousculer et qu'il va même être dangereux de poursuivre les investigations. Les deux intrigues, l'une ordinaire, l'autre plus complexe, se montrent aussi passionnantes l'une que l'autre, principalement par cet art que possède Michani de creuser ses personnages, d'analyser avec finesse la société israélienne et les forces qui s'y affrontent. Sans cesse, il revient à l'humain, à la souffrance des victimes, et son enquêteur, sur le retour, assisté d'une équipe aussi cabossée que lui, porte un regard subtil et juste sur notre humanité. C'est un très très grand polar. Et on s'écoute PJ Harvey, This is Love.
story that never been told. You're my dirty little secret, wanna keep you so. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they're tumbling in. Come on out, come on over, help me forget. Keep the walls from falling as they're tumbling in. Keep the walls from falling as they're tumbling in. This is love that I'm feeling. 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 This is love that I'm feeling.
Un bouquin pas ordinaire, maintenant c'est 6 versions. Tome 1 de Matt Wesolowski qui est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Donc ce tome importe en sous-titre Les orphelins du monde du mont Scarclo. Je savais bien que j'arriverais jamais à le dire. Et il a été traduit de l'anglais par Antoine Chénas. Alors 6 versions va vous scotcher, vous êtes prévenus. Pas dans la seconde, lentement, comme du thé qui infuse, pour finir par un fantastique feu d'artifice. Mais vous ne pourrez pas vous détacher de cette histoire 6 fois répétée. Ils sont 5 adolescents, garçons et filles, partis passer quelques jours dans un chalet où ils ont leurs habitudes, un bel endroit sur le mont Scarclo, c'est déjà mieux, une montagne écossaise. Des adultes les accompagnent, bien sûr, mais ceux-ci sont occupés à surveiller les plus petits, donc ils bénéficient d'une large autonomie. Cachés dans une grotte de la région ou dans leur dortoir, une fois la nuit venue, ils fument de l'herbe, picolent et se racontent des histoires effrayantes, jusqu'au jour où l'un d'eux disparaît. Paf ! L'enquête de police ne donnera rien et son corps ne refera surface qu'un an plus tard. Scott King, un ancien journaliste devenu producteur de podcast, décide 20 ans après les faits de donner la parole aux différents témoins de ce drame. 6 versions sont donc enregistrées, identiques à quelques variantes près, 6 façons de comprendre les événements et de mettre en avant tel ou tel détail, 6 versions pour aboutir à un final époustouflant. Matt Wesolowski renouvelle le thriller, et pas qu'un peu, l'originalité de ce roman intelligent, subtilement horrifiant, et l'apparente complexité de l'intrigue, si loin des faits, les mémoires ne sont plus aussi nettes, tout concourt à faire de ce roman une pépite. Et en plus, il y a de la musique, Cypress Hill, Illusion.
talk, can't hack it. Distracted from all reality. Now I'm let out on a minor technicality. They all messed up now, cause they let a local back on the street somehow. I'm looking for someone like me, living in my own world to my own degree. On the loose in the city, looking at the girl with the big titties, looking at me and I feel dizzy. I let her pants stop getting hot, cause she looks like my girl who got smoked. I'm trying to find ways to cope, but I ain't going out with a gauge or a rope.
Partons maintenant à la recherche d'un enfant perdu. Et il n'est pas perdu depuis hier. Hein. Il est perdu depuis 6 ans, à tel point qu'il n'y a plus que sa mère pour qui le cherche sans désespérer. Nous sommes sur les rives de la rivière Outaouais, au Canada, et le monde n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce roman, L'Enfant Rivière, paru aux éditions d'Alva, est une des superbes surprises de cette rentrée littéraire de janvier, un de mes coups de cœur, qui, je l'espère, deviendra l'un des vôtres. Isabelle Amonou, son autrice, est avec nous pour vous le faire découvrir. Bonjour Isabelle.
Bonjour Patrick.
Alors, L'Enfant Rivière, c'est le résultat d'une résidence d'écrivain au Canada, si j'ai bien compris. Et vous aviez le sujet avant de partir, ou c'est le pays qui vous a inspiré cette histoire en y arrivant ?
Alors, c'est les deux. Avant de partir, j'ai séjourné au Québec toute fin 2019. J'étais invitée là-bas pour une résidence effectivement d'un mois et je me suis retrouvée dans une maison patrimoniale au milieu d'un grand parc dans les bois, ce qui était très chouette, mais moi ce qui m'a fascinée immédiatement en arrivant, c'était la rivière. Rivière qui est inhabituelle pour moi. Par sa taille, par son débit, etc. et qui de surcroît sépare beaucoup de choses. En fait, c'est une rivière frontière entre deux États du Canada, entre le Québec et l'Ontario, en l'occurrence. C'est une rivière qui sépare deux villes à cet endroit précis, à savoir Gatineau du côté Québec et la Ottawa. Capitale du Canada, tout simplement Ottawa de l'autre côté, et qui sépare aussi deux langues, deux cultures. Enfin, c'est vraiment une rivière frontière. Et autant son aspect physique un peu majestueux que son côté symbolique, en fait, m'ont vraiment fasciné. Donc ça, c'est une chose, ainsi que toute la région autour qui est extrêmement boisée, sauvage, etc., dès qu'on sort des villes en question. Par ailleurs, lorsque j'étais invitée, j'étais en cours d'écriture d'une nouvelle dont le propos était de cibler Rennes en 2030-2040, enfin plutôt vers 2040 en l'occurrence.
Ouais.
On était un certain nombre donc d'écrivains à s'emparer du sujet, puisqu'il s'agissait de faire un recueil collectif qui a été édité depuis et qui s'appelle Rennes Noir Futur, ou Nos Futurs, ça dépend comment vous voulez le lire. Qui a été édité aux éditions Guetter en 2020 ou 2021. 2020, je pense. Donc, dans ce recueil, chacun d'entre nous, donc c'était le collectif Calibre 35 qui écrivait, et chacun d'entre nous écrivait donc sa nouvelle. Et moi, j'avais commencé ma nouvelle quand je suis partie au Canada, et ma nouvelle contenait déjà en germe, en quelque sorte, pas mal des éléments que j'ai développés dans le roman par la suite.
Oui, parce que sans être un roman de SF ou d'anticipation, hein, là n'est pas le propos, vous prenez un peu d'avance sur le calendrier et vous nous racontez plutôt le futur parce que ça se passe en 2030. Et, moi, j'ai pensé par un moment que c'était un peu pour accentuer un peu plus la pression sur l'aspect écologique. Et pour en arriver à cette sorte d'inversion des flux migratoires dont on parlera un peu plus tard.
Oui, tout à fait. Oui, évidemment, il y avait de ça. Donc, autant la nouvelle se situait plutôt à horizon 2040, dans un Rennes complètement dévasté, et autant là, je me suis recalée un peu, donc plus proche, hein, sur 2030, avec une légère anticipation. En fait, l'idée, c'était de s'emparer du présent et de faire une projection légère, mais pas dans le bon sens, je vous l'accorde, ouais. À horizon d'une petite dizaine d'années. Et j'avais besoin de cette petite dizaine d'années parce que aujourd'hui, les États-Unis ne se sont pas encore écroulés, donc c'était un petit peu difficile de prétendre le contraire. Tandis que là, en plus, j'écrivais le livre, enfin, j'ai écrit des parties du livre quand on était en cours de réélection aux États-Unis. Et là, il y a quand même pas mal d'observateurs qui se demandaient s'il n'y aurait pas un coup d'État ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc, c'était dans cette ambiance un peu délétère que j'en ai écrit certains passages.
On n'est pas passé loin quand même.
On n'est pas forcément basé très loin. Donc, moi, j'ai imaginé que ça se produisait effectivement. Voilà.
Voilà. Donc, pour situer le contexte, les Canadiens en ont ras-le-bol d'avoir des Américains qui passent la frontière, qui viennent se réfugier à cause de la crise climatique qui est absolument insupportable. Et ils sont en train, et ça, c'est assez drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé assez drôle, bien que ce soit tragique. Au lieu du mur débile de Trump au Mexique, ils sont en train de faire un mur en Alaska pour empêcher les Américains de revenir au Canada.
Alors, il y a deux murs. Ouais. En fait, il y a un premier mur entre les États-Unis et le Canada, sur la frontière sud. Là, c'est pour les empêcher de rentrer. Enfin, c'est pour essayer de les empêcher de rentrer. Donc là, il y a une construction de mur en cours. Donc celui-là, il fait vraiment penser à celui du Mexique.
Bah oui. Enfin,
normalement, oui. Et il y a un deuxième mur, parce qu'ils se sont rendus compte que bien qu'ils essaient de les empêcher de passer, ils n'arrivent pas à les empêcher de passer. Ils rentrent quand même au Canada, les Américains. Et du coup, ben, l'idée, c'est de tous les expédier en Alaska, qui est un État états-unien, en fait, oui. et de boucler la frontière avec l'Alaska pour les empêcher de revenir cette fois. Voilà. Donc, voilà. L'Alaska prison, en fait.
Et donc, on arrive à notre héros, le petit enfant perdu, il s'appelle Nathan. Et Nathan, il a disparu suite à un moment d'inattention. Voilà, il a disparu et son père, Thomas, qui est français, le croit noyé. Lui, il est reparti en France. Le couple s'est déchiré après. Et sa mère, Zoé, qui est, à mon avis, le personnage principal du livre, qui est une femme cabossée, aussi bien physiquement que psychologiquement, elle y croit toujours. Et elle a un drôle de métier dans votre livre. Enfin, une drôle d'occupation, je ne sais pas si c'est un métier, elle est payée pour toujours.
Bah, c'est devenu son métier en quelque sorte.
Ouais.
Je ne sais pas si je peux en parler vraiment.
Juste à demi-mot, ouais. elle chasse, elle traque quoi. Elle traque.
Elle traque dans les forêts, donc autour dans les forêts du Québec, hein, pas très loin de chez elle. Elle chasse, elle traque et en même temps qu'elle traque, elle cherche. Elle cherche et en l'occurrence, elle espère toujours retrouver son enfant.
Et voilà.
Soit au bord de la rivière, soit dans la forêt.
Voilà. Et Zoé, c'est une femme qui est une métisse. Ça vous permet, en même temps, il y a un autre personnage qui s'appelle Camille, de parler de la façon dont ont été traitées les nations natives au Canada, dont on a les colons ont volé les enfants, les ont enfermés dans des internats catholiques où ils ont été violés, maltraités, assassinés. Enfin, c'est absolument abominable. On a tué une culture en une génération.
Oui. Et alors, ça existait dans tout le Canada, ça existait aux États-Unis aussi, hein, mais ça existait dans tout le Canada, du côté anglophone et francophone. Et là, au Québec.
En Bretagne aussi.
En Bretagne aussi. Mais l'histoire ne fait que se répéter toujours, parce que j'y reviendrai après. Mais en Bretagne, il s'est passé une chose un peu similaire qui est arrivée à mes parents d'ailleurs. Et là-bas, ce qui s'est passé, c'est que au Québec, il y avait un certain nombre de pensionnats francophones, et dans les pensionnats francophones, donc catholiques, hein, et dans les pensionnats francophones, on leur apprenait le français de force et on leur interdisait d'utiliser leur langue. Donc c'est aussi un des propos du outre ça, ils subissaient toutes sortes de violences psychologiques et physiques. Et l'idée, c'était effectivement de dénoncer ça et de faire un parallèle entre cette négation de l'identité autochtone, cette assimilation, et l'assimilation futuriste, donc qui est en cours dans le roman, qui est celle des Américains, des Américains qui arrivent et qu'on va essayer de forcer de la même manière, vraisemblablement, à parler français et à s'acculturer pour certains d'entre eux, ou sinon, hop, c'est direction l'Alaska.
On en revient à des choses qui sont très très actuelles par rapport aux migrations, c'est-à-dire ces fameux phénomènes soit d'assimilation, soit d'adaptation, dont les mots n'ont pas la même valeur pour tout le monde, et où on se retrouve au Canada, là, avec Zoé et Camille, etc., des gens qui en parlent très bien, qui disent que les enfants et les parents ne pouvaient ni communiquer et ne s'aimaient plus, ils ne faisaient même plus partie de la même famille, ni du même peuple.
Et on leur interdisait, on leur retirait leur culture, ces gamins, ils restaient souvent plusieurs années dans les pensionnats, donc ils perdaient toute leur culture, et puis ils perdaient leur langue aussi petit à petit, donc quand ils rentraient chez eux, c'était extrêmement compliqué. Quand ils rentraient chez eux pendant l'été, quand ils avaient le droit de rentrer, par exemple, j'ai lu plusieurs témoignages qui racontaient que c'était extrêmement compliqué parce que le lien aux parents s'était distendu et il y avait une méfiance réciproque. Et là, j'ai un petit peu forcé le trait parce que certains sont rentrés chez eux tout de même. Mais moi, la mère de mon héroïne, qui est algonquine et qui a subi ça, qui a perdu son frère dans un tel pensionnat, renonce à rentrer chez elle parce que le lien avec ses parents est perdu. Du coup, elle vient s'établir à Gatineau. Elle décide qu'elle est québécoise, qu'elle n'est plus algonquine et qu'elle ne transmettra certainement pas ni la langue ni la culture à ses enfants. Ce qui est triste.
C'est ce qui est triste et ce qui explique en plus, ça renforce parce qu'il y a des problèmes d'alcoolisme, etc. Ce qui s'est passé, il s'est passé exactement la même chose en Australie, enfin avec toutes les minorités. Donc, notre histoire continue. Zoé cherche toujours Nathan. Zoé est persuadée que Nathan va revenir. Et Thomas revient. Thomas revient au bout de 6 ans, son mari, celui qui était parti, puisque son père décède et il faut bien qu'il revienne. Et ce couple-là, il s'est déchiré d'un seul coup, mais il n'est pas fini.
Il n'est pas tout à fait fini. Il pourrait, si le roman avait pris une trajectoire différente, il aurait peut-être pu se reconstituer. On ne le saura jamais.
On ne saura jamais.
Mais ils ont en tout cas énormément de choses en commun et une histoire à digérer. Et ce que parviendra à faire la femme, pour l'homme c'est différent, mais elle parviendra, enfin j'espère qu'on comprend à la fin qu'elle parvient à faire le deuil de ce couple de la même manière qu'elle fait le deuil d'un certain nombre de choses, enfin notamment de son père.
On dirait qu'ils n'ont pas compris comment chacun, l'un l'autre, comment l'autre vivait sa peine.
Non, ils n'ont pas réussi, parce que ce sont des personnages différents, je les voulais forcément très différents. Elle est un petit peu... elle est un petit peu sauvage, Zoé, elle est un petit peu... à fleur de peau, alors c'est peut-être son caractère, mais c'est aussi parce qu'elle a été très chahutée pendant son enfance. Ce qu'elle a vécu est très difficile, elle a une enfance difficile, et elle est en permanence à fleur de peau, en permanence dans la révolte et tout le temps dans l'action. Et de surcroît, elle se sent coupable de la disparition de l'enfant, puisque c'est elle qui le surveillait au moment où il a disparu.
Et Thomas l'a bien, bien enfoncé aussi.
Et il l'a bien enfoncé, donc elle, forcément, va continuer à le chercher. Et vu son caractère obstiné, continuer à chercher très très longtemps au-delà de toute raison. Lui, au contraire, c'est quelqu'un de plus, c'est quelqu'un de plus calme, de plus doux, de plus timoré en fait. Et il va chercher pendant quelques temps et puis arrêter. Au bout de quelques semaines, quelques mois, lui, il arrête et il dit à Zoé, écoute, toutes les statistiques sont contre nous, contre toi. Quand on ne retrouve pas un enfant au bout de quelques jours, ça veut dire qu'on ne le retrouvera jamais.
Il y a une phrase qui revient souvent, c'est la rivière ne rend pas toujours les corps.
Voilà, ouais. Oui. Ouais, puisque une des possibilités, c'est effectivement qu'il se soit noyé. Voilà. C'est la possibilité la plus, en tout cas, c'est celle qui a la probabilité la plus élevée. Et donc, il essaie de la convaincre que c'est terminé, qu'il faut arrêter, qu'il faut tourner la page, qu'il faut changer de, qu'il faut changer de vie et oublier. Et elle refuse obstinément. Ils se dressent l'un contre l'autre et ils finissent par en venir aux mains.
Donc, il se passe plein de choses. Alors surtout, ouais, faut lire ce bouquin comme c'est un roman, mais on peut le lire comme un roman d'aventure, comme un roman noir, comme un roman d'amour, parce qu'il y a énormément d'amour aussi à l'intérieur.
Oui. Mais
est-ce que vous seriez d'accord, c'est ma dernière question, pour dire que c'est un roman d'alternance entre espoir et désespoir, désastre écologique et nature sauvage, amour et désamour. À chaque fois, il y a la balance, et puis il y a les deux plateaux de la balance qui alternent comme ça.
Oui. Oui, d'ailleurs, l'héroïne dit à un moment, je crois que je lui fais dire qu'elle va changer de, ou qu'elle va rééquilibrer sa balance, ou changer de côté de balance. Enfin, je ne sais plus exactement quelle est l'expression, mais parce que effectivement, oui, c'est ça. Il y a les deux aspects en permanence, c'est plus que ce que je voulais, mais c'est aussi parce que je viens du noir.
Vous avez réussi parce que moi, je n'étais pas au courant et je l'ai vu.
D'accord, très bien, parfait.
Donc
c'est mon éducation au noir qui veut ça aussi.
Moi, je trouve ça un peu stupide d'enfermer des romans dans des étiquettes. C'est un roman, voilà, il se passe mille choses. Et puis c'est une belle histoire. Voilà, tout simplement, et puis il est très très bien écrit.
Merci beaucoup.
Alors là, on rappelle quand même un peu le titre que les gens n'oublient pas. Ça s'appelle L'Enfant Rivière d'Isabelle Amonou et c'est paru aux éditions d'Alva. C'est le premier roman que je lis des éditions d'Alva. Je ne connaissais pas du tout.
Ils ont presque 20 romans au catalogue.
Eh bien alors, j'en aurais peut-être d'autres. Oui. En attendant, il y a un peu de musique dans votre livre. Merci beaucoup, Isabelle Amonou. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour être avec nous. Et nous, on va écouter Arcade Fire, qui keeps the car running. Merci, bon après-midi.
Merci à vous. Au revoir, bon après-midi.
Same old city with a different
La Russie, on en parle que de ça, même la Russie, l'Ukraine, là, on va rester en Russie avec le numéro 1 de Mikhaïl Chevelev, qui est paru aux éditions Gallimard dans la collection du monde entier, qui a été traduit du russe par Christine Zetounian-Melouis. Alors, nous sommes en 1984 à Moscou et Vladimir Vovitch est à court d'argent, comme l'immense majorité de la population de l'URSS. En fait, il vit, il se débrouille, il fait un petit trafic, des petits arrangements avec la légalité. Pourtant, le besoin se fait de plus en plus urgent de changer au moins un des pneus de sa voiture. Et il sait qu'il ne pourra jamais payer la contravention s'il se fait contrôler par la police. C'est une toute petite magouille au marché noir, mais on lui propose un truc sans danger, 5 pneus pour un prix dérisoire. Il va même pouvoir en revendre 4 et donc se faire un beau bénéfice. Sauf qu'il se fait pincer, l'ami Vladimir, et évidemment se retrouver dans un des bureaux du KGB, contraint en échange de sa libération de signer des aveux et une promesse de collaborer avec le tout-puissant service d'espionnage si éventuellement celui-ci le sollicite, mais on lui assure que ça n'arrivera jamais, qu'il n'a rien à craindre et que tout va bien. Et on se retrouve en 2018, toujours à Moscou. Vladimir est contacté par un Américain, David Kapovitch, qui lui ressemble de façon frappante. Le lien de parenté est évident, mais comment cela se pourrait-il ? Alors, une nouvelle fois, Chevelev explore la société russe comme il l'avait fait de façon remarquable dans Une suite d'événements qui est paru en 2021, déjà chez Gallimard, qui était vraiment un très très grand roman. Vladimir se livrant à David cet étrange double presque de lui-même va nous faire vivre au plus près l'ère Eltsine, la kleptocratie à l'œuvre dans la déliquescence de l'Union soviétique, l'arrivée de Poutine au pouvoir, la montée en puissance des oligarques et nous présenter une société moderne qui a sous nombre d'aspects tout de l'ancienne URSS. Le KGB devenu FSB n'oublie rien et demeure le maître du chantage et des disparitions énigmatiques. À l'heure où on parle tant de la Russie et de son pouvoir dictatorial, le numéro 1, en plus d'être un remarquable roman aux 1000 rebondissements, a le grand mérite de nous démontrer la continuité de l'histoire de ce pays et de livrer quelques vérités essentielles. Et puis, comme il n'y a pas de musique du tout, on va se faire un petit hommage à David Crosby quand même, et depuis toute sa carrière, il mérite largement. David Crosby, Drive My Car.
A capsule, sometimes you can hide. Last night I just needed to ride. I wanna do drive my car, didn't really care how. I wanna do roam through all those people alone. I needed to drive my car, didn't really care how far. I wanna do roam. Was not out looking for honey, oh, I noticed him like usual, but not as strong. And the distance between me and my pavement, it seemed to get 100 yards long. I still feel the wind on my elbow, but I'm driving by the seat of my pants. I keep on trying to tune in on the radio, trying to tune me out of my trance. I needed to drive my car, I didn't really care. I wanted to roll.
chasing after one.
Le foutoir, le bazar, le chaos, bref, la France et ses soldats en juin 40, enfin ceux qui n'ont pas été tués, blessés ou faits prisonniers, ce qui est le cas de Paco, Jules et Miguel, paumés dans la campagne de l'Oise, dans le roman « Pas la défaite » de Gilles Moraton, qui est paru aux éditions Maurice Nadeau. Pétain vient de demander l'armistice, les grands patrons se frottent les mains, les autres Français se demandent à quelle sauce ils vont être assaisonnés. Voilà le tout début du roman, pas la défaite, et comme ce n'est que le début de l'histoire, je compte sur l'auteur pour nous en dire un peu plus sur cette tranche de vie extraordinaire, au sens littéral du terme. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors autant commencer par le début. Alors c'est pas la défaite peut-être, mais c'est pas la victoire non plus, parce que les trois compères qui ouvrent ce roman sont même très loin.
Oui, effectivement, on est en pleine tourmente de la débâcle de juin 40, donc ça il pleut des bombes de partout. Et en fait, ce titre, pas la défaite, bon, il faut dire avant de commencer peut-être que c'est une histoire un petit peu personnelle, puisque ça. C'est ce qui est arrivé réellement à mon père, en tout cas le point de départ du roman, puisque c'est la seule chose qu'il m'a raconté. Il était perdu et puis dans cette guerre, quoi. Et puis il a décidé de rentrer à pied. Donc voilà, à pied, ça veut dire 800 kilomètres, puisqu'il habitait à côté de Narbonne, dans un petit village du Minervois. Voilà, ça c'est le point de départ que j'avais. Et donc j'ai dû à un moment de ma vie cet homme dont on parle, qui s'appelle Paco, effectivement, est espagnol, bien entendu. Enfin, en tout cas, son prénom le montre, et puis dans le roman aussi, puisqu'il parle un mélange d'espagnol et de français un petit peu. Voilà, donc il a été naturalisé en 35 et tout de suite mobilisé pour le service militaire et ensuite sur le front. Voilà, donc j'ai dû à un moment de ma vie prouver ma qualité de français, et pour ce faire, j'ai dû chercher dans les papiers, mon père est mort depuis très longtemps, j'ai dû chercher dans les papiers familiaux à la recherche de l'acte de naturalisation que je n'ai pas trouvé. En revanche, j'ai trouvé un acte de démobilisation qui se présentait sous format A4 à l'horizontale, avec à gauche le discours de Pétain et à droite le discours du général Frère, qui était donc le commandant des forces françaises, en tout cas du régiment dans lequel se battait mon père. Et ce discours se termine « Soldat, vous pouvez garder la tête haute, vous n'avez pas connu la défaite ». Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, avec la branlée qu'on a pris, il faut quand même oser le dire en juillet 40, quoi, à peu près. Voilà la genèse du roman.
C'est aussi que, contrairement à une idée largement répandue, les soldats français se sont battus et mieux que bien sur beaucoup de fronts. Ils ont résisté à des divisions bien mieux armées et beaucoup plus nombreuses, mais qu'ils ont été trahis par l'état-major.
Donc, absolument.
Qu'ensuite, alors, l'état-major dise qu'il n'y a pas eu la défaite, effectivement, pour elle, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire, puisqu'ils espéraient Hitler.
Oui, en tout cas, il y a eu l'armistice. Donc voilà, on dit c'est pas une défaite. Voilà. Enfin, ouais. Bon, oui, et effectivement, vous avez raison de dire ça. Il y a eu une forte résistance quand même de l'armée française. Mais enfin, je voudrais dire quand même que ça n'est pas un livre d'histoire que j'ai
écrit. Non.
C'est, voilà, c'est le récit de cet homme et son obstination à vouloir rejoindre le sud, sa fiancée qui est dans ce petit village, ses parents, et donc ça devient pour lui une sorte d'obsession, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi faire d'autre. Il est seul. Enfin, tout son je sais pas comment ça s'appelle, son régiment, c'est trop gros, mais enfin son groupe en tout cas a été décimé. Et il se retrouve seul, il ne sait plus où aller chercher des ordres, et donc voilà, il s'en va. Il se considère pas comme un déserteur, puisque finalement les Allemands sont déjà passés, il n'y a plus
d'officiers, voilà, il n'y a plus rien.
C'est ça.
Et en plus, le pauvre gars, le pauvre Paco, il sait absolument pas où il est, il sait pas s'orienter. La plupart des gens qu'il croise sont pas beaucoup plus doués que lui et savent pas vraiment. Donc il marche, il évite tout le monde parce qu'on sait jamais.
C'est ça, il se méfie un peu de tout le monde.
Et en marchant, eh ben, il se raconte un peu sa vie. Et c'est là où ça devient passionnant, parce qu'il en arrive à raconter, par exemple, les grandes grèves qui ont eu lieu dans les vignes avant la guerre et qui ont abouti à une immense victoire de la classe ouvrière ce qui n'était pas si courant à l'époque.
Effectivement, alors ce sont des récits croisés, hein. Le fil conducteur du roman, c'est le chemin, la descente vers le sud. Et en même temps, effectivement, il se remémore à travers des discussions avec ses camarades de combat, il se remémore cette grève et il se remémore aussi des récits de la guerre d'Espagne. Voilà, alors cette grève, effectivement, ça a été une longue grève, qui a existé dans la réalité aussi. Bon, je l'ai vraiment très très transformé, hein. Je l'ai beaucoup romancé. Mais enfin, c'est une grève qui a fait plier les patrons, les propriétaires terriens sur une chose extrêmement importante qui était le système des journaliers. Alors ce qu'on appelait les ouvriers viticoles se présentaient le matin dans la cour du château, grand château, grande propriété dans le village. Qui occupent, enfin voilà, à peu près deux tiers du territoire de la commune, ce sont des vignes qui appartiennent à ce château. Hein. Donc les ouvriers se présentent au portail du château, puis le régisseur est là, il choisit celui-là, 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 en fonction de son bon vouloir, de la capacité de travail des gens,
de ce qu'il y a à faire,
du savoir-faire, de ce qu'il y a à faire, enfin, etc. Oui, absolument. Et donc, voilà, ils sont payés à la semaine, et voilà, ça ne convenait à personne, ce système. Mais c'était bien commode pour les patrons, effectivement, puisque avec un moindre coût de travail, ils conduisaient la propriété.
Ce qui est très bien raconté, c'est le paternalisme du patronat, le paternalisme du baron. Qui est apparemment proche de ses ouvriers, proche de ci, proche de ça, et tout ce qui s'ensuit après, qu'on va pas raconter avec la baronne, etc., où il se passe plein de choses. Et puis, tout de suite après cet épisode de séduction, vient les menaces avec Clémenceau, on va envoyer la troupe, c'était quand même une période qui était très 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 violente au niveau des luttes syndicales.
Ah ben oui, ça rigolait pas là, puisque oui, effectivement, il y a eu 36. Donc là, cette grève, elle est en 38. Hein, donc c'est 2 ans après 36. Il y a eu beaucoup de mouvements ouvriers partout dans le pays, y compris d'ouvriers agricoles. Donc ça a conduit, alors, cette menace d'envoyer la troupe, effectivement, le baron l'a brandi comme l'ultime menace, en sachant très bien que le gouvernement n'est plus de leur côté. Enfin, c'est assez compliqué quand même, la situation, hein, voilà. Et puis, au cours de cette grève, ils ont le soutien de la fédération du syndicat de Carcassonne, qui leur envoie un type pour les aider à conduire tout ça, parer éventuellement à un débarquement de gens qui viendraient casser la grève, qui auraient été recrutés à l'extérieur, enfin, etc. Donc là, on ne va pas rentrer trop
dans les détails. Non.
Voilà, parce qu'après, voilà.
Et il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est que Paco, il est membre du Parti communiste. Il est communiste, il est stalinien.
C'est pour ça qu'il se méfie de tout le monde, parce qu'il a l'accent, un très très fort accent espagnol, bien sûr, et il est communiste. Donc, il se dit que s'il se fait arrêter, il est bon pour partir direct en Allemagne.
Ouais, mais il a en même temps un petit peu des crises de foi, qu'on pourrait les appeler. C'est-à-dire qu'il a fait l'Espagne. Il a fait l'Espagne, il a combattu aux côtés des anarchistes, il a combattu aux côtés des membres du POUM. Il a vu comment se sont comportés les staliniens là-bas, des gens comme François Marty, etc., qui ont assassiné je ne sais pas combien de combattants républicains espagnols. Et donc, il n'est plus si sûr que ça. Il va se battre jusqu'au bout, il renoncera pas, mais il n'est plus si sûr que ça d'être sur la bonne voie.
En fait, il comprend rien à tout ça, quoi. Ça l'intéresse pas. Les querelles théoriques, politiques, ça ne l'intéresse pas.
Là, c'est pas théorique. Les mecs, ils mourraient pour de vrai. Hein.
Oui. D'accord. Mais lui, ce qu'il se dit, c'est que il est du côté des opprimés et il se bat avec les gens qui défendent les opprimés, c'est le Parti communiste. Point. Les autres, il ne sait pas trop ce que c'est. Alors, bien sûr, il y a eu des exactions terribles en Espagne. Bien sûr. Et effectivement, ça le conduit à douter via des petits dialogues que j'ai intérieurs dans sa tête, qu'il mène parfois avec Lénine, avec Staline, enfin, il discute avec eux.
Ça, c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est catholique par certains moments et qu'il prie la Sainte Vierge, et en fait, il l'appelle Illich.
Oui, il l'appelle Illich, Lénine, oui, camarade Illich, oui. Ouais. Bon, après ça, c'est une petite...
Très, très drôle.
Fantaisie de roman, si on va dire. Voilà, oui, je me suis un peu amusé, là, ouais. Et puis ça, si vous voulez, ça sort du cadre extrêmement grave du récit, quoi. Un peu, ça amène un peu de légèreté, quoi, aussi, dans le récit.
Ouais, mais il en faut. Pour faire passer le reste, c'est obligatoire, hein. C'est obligatoire. Ben merci beaucoup, Gilles. Je rappelle le titre du livre, c'est « Pas la défaite » de Gilles Moraton, qui est paru aux éditions Maurice Nadeau, et c'est absolument passionnant. Il faut pas passer à côté. Et pour illustrer, on va se mettre une petite musique. C'est un groupe qui s'appelle La Canaille, et qui chante une chanson qui s'appelle « Le soulèvement aura lieu ».
Des ventres creux qui montent loin, grand plus fort à chaque nouvelle recrue. Ces crocs sont acérés, brillent d'une blancheur nacrée. Ayez crainte, car ils n'attendent qu'une chose, qu'on les libère de leur écrin. Nous vous cracherons nos cris coincés dans le gosier, avec la poésie des bêtes de somme qui sortent de l'enclos. Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots, et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers. Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique, oui, nous serons pour vous la langue lourde et méthodique. Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire, l'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire. Le soulèvement aura lieu, l'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu, oui c'est une évidence et t'auras beau prier ton Dieu. Préparez votre retraite, une horde d'affamés s'amasse en bas de vos fenêtres. Et pour vous, à la cautériser l'endroit où croissent la tendresse. Oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse. Son visage est d'un calme absolu et vous défie du fond des yeux d'un air ferme et résolu. Et là, vous comprenez trop tard que votre époque est révolue. Que si on en est là, c'est parce que vous l'avez voulu. La pluie inondera de larmes le pavé, le vent de nos clameurs soufflera vos certitudes. Des coulées de dégoût engloutiront tous vos palais, charriés par ce torrent qui sort du lit de sa servitude. Le soulèvement aura lieu, l'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu,
sourire narquois et tous vos traits d'humour raciste. Vous ne pourrez plus vous afficher de dorures indécentes, vous gargariser de dividendes et jouir du fruit de vos rentes. Quand vous sonnerez la cloche, seul le silence vous répondra. Vous maudirez votre petit personnel et les traiterez d'ingrats. Et nous, nous les bâtards, les rebus et les déchets, nous danserons autour du grand bûcher de vos rêves déchus. Le soulèvement aura lieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau prier ton Dieu. Le soulèvement aura lieu. L'air est électrique, le temps est lourd et orageux. Le soulèvement aura lieu. Oui, c'est une évidence et t'auras beau.
Je vous emmène dans la forêt maintenant, promenons-nous dans les bois. Ça s'appelle « Dans les murmures de la forêt ravie » de Philippe Allauzet, qui parut aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. Alors c'est un conte cruel et sombre pour clore cette émission. C'est une histoire de loups et de brebis qui sont déchiquetés par la bête et de la révolte des hommes et des femmes qui les gardent. Il y a Jean, le père, qui n'a peur de rien, toujours accompagné de son chien Pentecôte. Chez lui vit toujours sa fille Agnès, une sauvage qui n'aime pas les contacts, qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas l'amour. Parce que son cœur semble sec depuis la disparition de sa mère alors qu'elle était à peine adolescente. Par contre, elle aime le plaisir que lui procurent les caresses de Pâle, l'ouvrier du père, l'étranger sans passé et guère d'avenir. Quand le loup frappe, le père s'enfonce dans le monde inexploré de la forêt, son fusil en main, et il est bien décidé en fait à faire la peau du tueur. C'est le premier roman de Philippe Allauzet. Cette tragédie moderne dégage une atmosphère d'une tristesse infinie, de vie sans joie, d'une vie qui ploie sous les coups du sort, mais qui ne demande qu'à s'éveiller avec cette quête de la bête qui va stimuler Agnès et son père. L'écriture est magnifique, d'une poésie subtile et forte, un peu plus d'une centaine de pages, mais dense, belle, suffisante pour raconter les parcours réparateurs de ces personnages esquintés par la dureté de l'existence dans cette région qui ne fait aucun cadeau. Et on va s'écouter du Bob Dylan, « She Belongs to Me ».
She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. You will start out standing, proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks.
hypnotist collector, you are a walking antique. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. For Halloween, buy her a trumpet, and for Christmas, get her a drum.
C'était Bob Dylan, She Belongs to Me, on finit par un prix Nobel, voilà, qui montre un peu le niveau culturel de Des Polars et Des Notes. Ça, c'est la classe. Rendez-vous bien sûr le mois prochain pour de nouveaux romans noirs. En attendant, nous nous retrouverons début février pour un bien au contraire tout à fait exceptionnel qui nous emmènera en Inde assister aux préparatifs d'un procès réellement très très particulier. Bye bye.
Des polars et des notes.